France Inter.
Aujourd'hui, le mystère des anneaux sous-marins du Cap Corse, raconté par
Laurent Balesta, biologiste, photographe.
France Inter, La Terre au carré, Mathieu Vidard.
Au large du Cap Corse, à 20 km des côtes, là où la mer devient un continent d'eau profonde et silencieuse, il existe une vallée dont personne ne soupçonnait l'existence. C'est une plaine sous-marine balayée par les courants, recouverte de sable et d'ombre et pourtant marquée d'un étrange mystère. Ce secret l'a révélé par hasard en 2011. Ce jour-là, l'œil froid d'un sonar scrute les fonds dans le cadre d'une simple mission cartographique. Mais ce qu'il a renvoyé sur les écrans ne ressemble à rien de connu. C'est un motif, puis un autre, puis des centaines, des cercles parfaits, inexplicables, alignés, disposés comme sur une partition. 1417 anneaux qui forment un paysage géométrique à perte de vue. Chacun mesure près de 20 mètres de diamètre, tous posés là, à plus de 100 mètres de profondeur. Chaque cercle semble avoir été dessiné à la main, creusé dans le sable. Certains abritent la vie, des poissons, des coraux, des créatures adaptées à l'obscurité. Cette vallée est un refuge et un sanctuaire. D'autres semblent figés depuis des siècles, mais tous racontent quelque chose d'ancien, quelque chose d'oublié. Et c'est le début d'une grande enquête. Les scientifiques observent et s'interrogent. Est-ce l'œuvre d'un animal, d'un courant, une cicatrice de la guerre? Alors un jour, des scientifiques décident de plonger plus loin dans l'énigme. Une expédition s'organise pour aller dans l'inconnu. Ceux qui s'y aventurent vont découvrir un monde à part. Ce que révèlent les prélèvements est totalement inattendu. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter.
C'est ici, lors d'une campagne océanographique dans les eaux du parc naturel marin du Cap Corse et de la Griatte, que les chercheurs Gérard et Christine Perjean de l'Université de Corse ont aperçu pour la première fois d'étranges cercles sur l'écran de leur sonar.
Bonjour Laurent Balesta.
Bonjour.
Samedi soir, Arte va diffuser le documentaire de Yann Rino, que l'on peut déjà voir d'ailleurs sur la plateforme de la chaîne et dont vous êtes l'un des auteurs. C'est l'histoire d'une expédition hallucinante que vous avez menée autour de mystérieux anneaux sous-marins situés donc dans les profondeurs du Cap Corse. Avant d'en parler d'ailleurs, Laurent Balesta, je signale à nos auditoristes que nous avons déjà d'ailleurs posté en story sur le compte Instagram de l'émission des photos que vous avez réalisées de ces anneaux pour qu'on puisse quand même déjà visualiser de quoi il s'agit. Il faut aller les voir pour comprendre évidemment de quoi vous allez nous parler, de quoi est-ce qu'il s'agit exactement. Alors de quoi on parle ?
Bah, visuellement, on parle de cercles sombres dessinés sur une plaine de sable clair, tous bien alignés, bien ordonnés. Du coup, c'est une vision. Moi, je me souviens de mon premier sentiment quand on a fait la première plongée humaine, puisque ça a été d'abord un sonar, donc une image sonore. Et ensuite, il a fallu attendre 10 ans pour faire la première plongée humaine dessus. Quand je suis arrivé près de ces anneaux, je ne suis même pas descendu jusqu'au fond. Je me suis arrêté 20 mètres au-dessus d'eux. Parce que c'était cette vision-là qui était la plus intrigante. Imaginez, voilà, à perte de vue, des cercles comme dessinés. La vision, enfin, le sentiment que j'ai eu, c'était ce n'était pas naturel. Voilà.
Extraterrestre.
après, il faut vite mettre de la rigueur et de la science. Sérieux. Mais là, voilà, le simple fait de commencer en se disant ça, mais ça ne paraît pas naturel. Ça y est, pour moi, il y avait tous les ingrédients. Je savais que c'était un défi de plongée. Il a fallu 10 ans pour aller faire la première plongée. C'est quand même à 120 mètres, dans le couloir des cargos, dans un endroit où le temps est jamais... La mer est jamais belle. Enfin, jamais belle. Jamais facile pour plonger, en tout cas.
Ouais.
Très belle, mais pas facile à plonger. Ouais. Et en plus, c'était la promesse d'image inédite. Donc, il y avait les trois ingrédients. L'aventure, l'image, la science.
Vous n'aviez jamais entendu parler de ce type de structure, même ailleurs qu'en Corse, ou pas ?
Ailleurs, jamais. Mais évidemment, quand ça avait été révélé par cette campagne de sonar, on avait été tout de suite informés. D'ailleurs, les deux professeurs qui l'ont fait, Gérard et Christine Perjean, c'était mes propres professeurs quand j'étais étudiant. Et on avait été très surpris de leur premier papier là-dessus, qui montrait ces images de sonar.
Mais c'était quoi? C'était un hasard, ces premières images, ou pas?
Alors oui, c'était une campagne de... Alors, pas tout à fait du hasard. D'abord, le travail de cartographie était là parce que c'était un préliminaire de la création du parc marin du Cap Corse et de la Griatte. Il faut bien des cartes avant de savoir ce qu'on va gérer. Mmh. Donc il y avait ce travail. Et il y avait quand même eu sans doute un indice qu'on a retrouvé, nous, très longtemps après, dans une thèse de doctorat d'un étudiant de Corté, en 2006. Une thèse en géologie, hein, ce n'est même pas de la bio... et le gars avait fait aussi du sonar et des petites caméras qu'il envoyait avec un câble depuis son bateau, donc c'était une regardée par le trou de la serrure, quoi. Et il avait parlé d'étranges îlots de vie qui mériteraient bien qu'on s'y attarde un peu plus. Voilà. Donc peut-être c'est ce qui a orienté quand même le sonar vers là-bas à ce moment-là. Et voilà, donc entre 2006 et 2000, il a la première intuition qu'il y avait quelque chose d'étrange. Et la première plongée, il se passe 14 ans quand même.
1417 anneaux.
Alors même 1600 et quelques
ça y est,
désormais.
Vous
parce
avez
que,
réactualisé.
Oui, le travail, il continue. Ouais. On les a sous-catégorisés. Donc voilà, il y en a 1600, mais 1300 qui correspondent vraiment à la première description. Et puis d'autres catégories, selon la forme.
Ouais.
Il y a des légères nuances désormais.
Et donc ça veut dire qu'avant 2011, on ne les avait jamais repérés. Alors que c'est à 20 km du large, à 100 mètres de profondeur.
Mais ça, c'est l'histoire du monde sous-marin.
On se dit, mais c'est pas si profond que ça,
oui,
100 mètres.
C'est pas au fin fond de la Papouasie, c'est pas en Antarctique, oui. Mais c'est la réalité de nos connaissances des fonds marins.
Ouais.
C'est tellement parcellaire, tellement côtier. Et dès qu'on touche à ces profondeurs-là...
Et donc, il a fallu 10 ans, techniquement, en fait, pour être au point, ou
pas ? Il fallait aussi une opportunité. C'est, malheureusement, moi, quand je veux satisfaire ma curiosité, c'est tout de suite des moyens conséquents. Il me faut toute une équipe, il me faut des bateaux, il faut solliciter. Donc, il faut l'inscrire tout de suite dans un projet. Et il se trouve que le parc marin du Cap Corse nous a confié un travail, c'est notre travail au quotidien, hein, d'inventaire, de caractérisation des biocénoses et des écosystèmes profonds.
Qu'est-ce que c'est que les biocénoses ?
La biocénose, c'est la composante vivante de l'écosystème par rapport au biotope, qui est sa composante physique.
Mais là, il y a des enjeux techniques particuliers de plonger, par exemple, pour aller alors ce que vous appelez la grande profondeur, parce qu'encore une fois, 100 mètres, on se dit, mais c'est pas de la grande profondeur, 100 mètres hein.
Ben, c'est vu à plat, c'est la longueur d'un terrain de foot. Hein. Mmh. Il y a des Jamaïcains qui courent ça en moins de 10 secondes.
Hein. Ouais.
Voilà. Ben, nous, en tout cas, il nous faut 6 heures pour revenir de cette distance-là.
Pour revenir, pour remonter en fait.
Oui. Pour descendre, c'est pas comme... Tout le monde s'est coulé. Hein. En général, le couler, c'est pas le problème. Le problème, c'est la remontée. Donc, elle est interminable, surtout si l'on a la prétention d'y rester un petit peu, pour quelques minutes passées au fond. Si on prend un cas, par exemple, très précis, la première plongée qu'on a fait, je me souviens très bien, en juillet 2020, 27 minutes, ça paraît anecdotique de dire le temps, mais 27 minutes à 120 mètres, ça m'a coûté 5 heures de remontée. Voilà.
C'est ça.
C'est là où la plongée est engagée. Au bout de 27 minutes, on ne peut pas sortir comme ça.
Pourquoi il faut 4 heures, 5 heures pour remonter ?
Pour que le corps évacue tout le gaz neutre qui s'est accumulé, en l'occurrence de l'hélium, qui a l'avantage d'être un gaz léger, qui n'est pas narcotique à ces profondeurs-là, mais qui forcément, quand on le respire à 120 mètres pendant 27 minutes, il s'accumule dans tous les tissus du corps, le sang, les graisses, les os, et quand on remonte, il ne sort pas instantanément. Il sort tout doucement, et si on le force à sortir, il se transforme en bulle. C'est plus du gaz dissous dans l'organisme, c'est des bulles circulantes, et là, bah, c'est les pires conséquences physiologiques. Voilà.
Bon. Donc c'est la mort assurée, quoi.
Oui. Mais bon, ça se gère bien, et c'est... Voilà, il faut juste être patient, parfois un peu endurant, parce que c'est parfois pénible, ces longues attentes en plein eau, quand il fait un peu froid. Quand
sauf que vous avez finalement résolu le problème, parce que vous vous êtes dit, bon, on va quand même essayer d'y passer du temps. Et là, vous êtes dit, bah, puisqu'il faut beaucoup de temps à remonter, bah, autant rester longtemps dans l'eau.
Si le problème est la remontée, la solution, c'est de ne plus remonter.
Et donc, vous aviez quoi à votre disposition pour ça ?
On avait ce qu'on a nous baptisé la station batiale, parce que ça sonne comme dans l'espace. Batiale, c'est cette zone au-delà de 200 mètres, donc on est un peu moins, mais voilà. Et c'est le principe, on n'a rien inventé, hein, c'est un grand détournement. On détourne les moyens réservés jusque-là par la plongée industrielle pour aller réparer des puits de pétrole, des pipelines, des câbles, je ne sais quoi. Et cette technique de plongée, qui est très onéreuse, c'est ça le problème, a toujours été réservée à l'exploitation des fonds marins, jamais à son exploration. Moi, j'ai toujours rêvé de la détourner de cet usage premier. Je l'ai fait une première fois en 2019, le long de la Côte d'Azur. On avait fait 28 jours comme ça, à 120 mètres de profondeur.
Ouais.
Et là, on a remis ça pour aller élucider le mystère des anneaux. 21 jours.
À 4.
à quatre.
Dans un habitacle de 5 mètres carrés.
Ouais, il faut bien se connaître.
Il faut aimer la promiscuité.
Non, il faut bien se connaître, surtout.
Ça s'est bien passé, globalement?
Mais oui, c'est des camarades de longue date, à l'humeur égale, en toutes circonstances, un peu taiseux. Moins bavard que moi, et c'est voilà, ça se passe bien.
Alors, il y a quelques conséquences à vivre dans une capsule pressurisée. C'est par exemple les effets sur la voix. Écoutons un extrait du documentaire d'Arte. C'est vous qu'on va entendre.
Il y a le noyau qui est un peu erroné, mais même ce noyau, finalement, il est au sommet d'une bosse, et puis elle redescend la bosse jusqu'à la couronne. Donc il y avait la couronne, puis le sable, et puis quand même au milieu, une petite dalle encore, au milieu de la dalle, un gros trou. Mais je crois que c'est juste une coïncidence. Mais ça donnait l'impression, ça y est, il y a quelque chose qui va sortir du gaz, de la lave.
Donc ça, Daffy Duck, ça a été pendant 21 jours?
Oui, hein. Mais alors là, ce que vous ignorez, c'est que ça, c'est une voix qui est déjà améliorée, qui est retimbrée par un ordinateur. La voix réelle qui sort de la bouche de mes camarades et de moi, elle est totalement inaudible. On peut faire tous les efforts d'articulation, tous les efforts d'essayer de rendre sa voix plus grave, rien ne sort. C'est un bruit cristallin totalement inaudible. Entre nous, on ne peut pas se parler, sauf de mettre un casque, un micro, un ordinateur qui retimbre et qui donne cette voix un peu nasale, un peu robotique, comme ça.
Donc ça, c'est ce qui a été votre lot quotidien pendant 21 jours
Ouais, en fait, très vite, on arrête de parler.
Oui, c'est ça.
C'est pénible.
Vous communiquez par des signes
Ouais, c'est un peu comme quand on est avec quelqu'un de langue étrangère. Au début, on fait un effort de comprendre. À un moment donné, on lâche prise, on sourit. Mmh. Et voilà, là, on a beaucoup souri.
Ouais, on a un autre extrait, d'ailleurs, regardez. Ça, c'est l'autre version.
Voilà, ça, c'est pas retimbré, c'est complètement incompréhensible, c'est il faut sous-titrer.
Effectivement. Ouais. Surtout si on veut faire de la science, hein, parce que c'est quand même le but de l'expédition. Ouais. Avant d'arriver justement dans le grave, finalement, de cette expédition, les hypothèses, c'était quoi, alors, Laurent Balesta, au sujet de ces anneaux sous-marins?
Il y en a une
qui est très séduisante, c'est celle des obus de la guerre.
Oui. Alors, en plus, elle est ardemment défendue par encore au moins deux professeurs de Marseille qui la défendent encore, qui ont même publié un papier récemment. Bon.
Ils disent quoi? Que c'est le largage des bombes?
Oui, des bombes que pendant la Deuxième Guerre mondiale, des avions en détresse avaient l'obligation de larguer leurs bombes. Et que voilà ce que c'est. Mais bon, ça tient pas l'expertise qu'on en a fait, nous, et les datations qu'on a trouvées, et même la chronologie de ces datations. Il aurait fallu que non seulement que les bombes explosent, mais qu'on n'en trouve pas des traces, ou qu'elles s'enfouissent, ce qui n'existe pas, et qu'en plus, dans leur explosion, elles remettent dans l'ordre toutes les couches de sédiments, et que les couches supérieures soient de 21 000 ans. Ou alors, il faut que ce soit l'homme de Cro-Magnon qui se soit battu.
Parce qu'elles auraient dû faire des trous, en fait, ces bombes.
Oui, là, c'est des dômes.
Et là, c'est des dômes.
Ouais, c'est des dômes. Ah. Et en plus, des trous de bombes, on en connaît sur le littoral de la Deuxième Guerre mondiale, ou des obus qui n'ont pas explosé, on en connaît aussi plein, profonds, moins profonds, ça ne ressemble pas à ça.
Donc les autres hypothèses, c'était quoi?
C'était d'éventuelles sources de gaz, sources d'eau douce, des constructions biologiques à partir de ces sources-là. Enfin voilà, c'était essentiellement ça, les théories. La question, c'était aussi, mais pourquoi ici et nulle part ailleurs? Donc voilà, et bon, c'est, on ne peut pas l'expliquer en deux minutes, mais c'est un formidable concours de circonstances. Il a fallu toute une série d'événements qui se passent au même endroit pour qu'on arrive à ces vestiges-là aujourd'hui.
On va en parler dans un instant, on va le révéler, on va spoiler le documentaire d'Arte ou pas? C'est ça qui est un peu chiant dans cette histoire.
Je te laisse la responsabilité de ce choix.
Parce que moi, je vais poser des questions. Hein, okay. Faudrait répondre ou pas.
J'essaierai de trouver des réponses un peu hermétiques.
Pour donner quand même envie aux téléspectateurs d'aller voir le doc.
Donner des clés, mais pas tout.
Voilà. Ouais, on se retrouve dans un instant. Laurent Balesta, vous êtes notre invité pour parler de ces mystérieux anneaux sous-marins du Cap Corse.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
En regardant de plus près, une vie discrète s'est adaptée au désert de sable. La crevette caramotte, le serpenton imberbe. Et si certaines se cachent, d'autres se dressent. Les éponges oreilles d'éléphant, les pénatules arbres de Noël, et trois espèces de coraux noirs, quoique blancs en apparence, qui cohabitent ici. Comme le corail noir de l'Arix.
Extrait du documentaire Cap Corse, le mystère des anneaux, c'est à voir donc samedi soir sur Arte. C'est déjà sur la plateforme de la chaîne, Laurent Balesta. Il est génial ce bestiaire.
Ah bah oui, oui, hein. J'ose espérer qu'il ne plaît pas qu'à moi.
Les noms de poissons ou de crustacés, c'est quand même, ça vaut 100% de cacahuètes. Hein.
et leur allure encore plus.
C'est vrai.
Ah bah oui, ils ont tous des gueules.
Il y a des animaux que vous n'aviez jamais vus auparavant.
Ah oui, plusieurs que j'ai photographiés pour la première fois. C'est sur les trois espèces de corail noir, il y en avait deux que j'avais jamais vues. Les grandes gorgones qui colonisaient le centre des anneaux, là, les gorgones peignes, jamais vues non plus. Un coquillage que je ne connaissais pas. Une limace de mer que j'ai cru même nouvelle pour la science, je me voyais déjà lui donner le nom de ma fille et tout. Et puis la génétique a tranché, c'était une robe nouvelle d'une espèce déjà décrite à peine un an avant nous, donc c'est très rageant parce que vraiment à un an près c'était notre découverte. En plus découverte par une campagne de robots pêcheurs, enfin bon, vraiment le truc pas classe quoi. Hein. C'est pas,
ça avait
ça manque
gueule.
De panache quand
c'est
même.
Ça, ouais. Et dans les gorgones, on voit par exemple des étoiles de mer qui ressemblent pas du tout à des étoiles de mer d'ailleurs.
Oui, qui sont des ophures plutôt, donc ces étoiles très épineuses comme ça. C'était heureusement, je dirais, heureusement qu'il y avait ces petites récompenses naturalistes à chacune des plongées. Parce qu'après, les plongées étaient assez ingrates, un peu douloureuses, hein, quand on est à ces profondeurs-là. La dose d'hélium qu'on respire nous refroidit l'organisme très très vite. Donc on est très vite frigorifié et on reste des heures comme ça. Les manips sont un peu dures, il faut faire des carottages, des travaux, quoi. Et les résultats de ces analyses, ben, ils mettent des mois et des mois. Donc ça serait vite ingrat comme enquête s'il n'y avait pas ces petites récompenses par quelques animaux, quelques invertébrés fixés qui donnent des surprises, qui donnent matière à des photographies inédites.
Donc vous avez formé une équipe scientifique en béton armé pour cette expédition. Il y a plein de disciplines différentes. Hein.
Oui, bah, au début on croyait qu'avec les seuls biologistes marins d'Andromède Océanologie, ma société, on allait s'en sortir, quoi, hein. On allait faire le job. Et en fait, très vite, on a compris que ça nous dépassait, que c'était de la géologie, c'était de la géophysique, c'était de la paléoclimatologie, qu'il fallait tellement de domaines. Et on a eu la chance d'éveiller la curiosité des plus grands spécialistes en France pour venir nous aider.
Dont Édouard Barre, professeur au Collège de France, qui est un petit peu avec vous le fil rouge de cette aventure, qui d'ailleurs avait une curiosité personnelle pour ce projet, lui qui date justement les événements climatiques sur des échelles très longues de temps.
Très longue, mais sa spécialité, c'est quand même, on va dire, les 100 derniers milliers d'années. Enfin, j'espère qu'il ne m'en veut pas si je dis ça.
C'est vrai qu'à l'échelle géologique, c'est moins long.
Voilà, c'est hier. Mais c'est n'empêche, dans ce passé récent, qu'on peut tirer les meilleurs modèles pour comprendre l'évolution des climats aujourd'hui.
Ouais.
Donc, c'est sa grande spécialité, en particulier le dernier grand réchauffement de la planète, qui donc part de la dernière ère glaciaire. Donc ça, c'est sa grande spécialité, la dernière ère glaciaire et comment le climat s'est réchauffé soudainement.
Et alors, ça tombait pile poil, parce que c'est justement, il fallait dater ces anneaux sous-marins, et ça correspond précisément aux études d'Edouard Barre. Hein,
c'était incroyable. Quand on a trouvé cette date de 21 000 ans...
Donc ça correspond à quoi, 21 000 ans, en fait,
c'est une date
ces
mythique pour ces gens-là, parce que 21 000 ans... tous les climatologues vous le disent, c'est le maximum, la période la plus froide de la dernière ère glaciaire.
Mmh.
C'est une période qui a duré à peu près 6 000 ans de froid intense jusqu'à moins 18 000 ans. Et ensuite, ça s'est réchauffé. Et donc, cette dernière période très froide de la planète, forcément, période très froide, dit des calottes glaciaires énormes, et donc un niveau marin mondial beaucoup plus bas. Environ 120 mètres plus bas, sachant qu'il n'était pas pareil partout sur Terre. Aujourd'hui non plus, on ne s'en rend pas compte, mais le zéro mètre de la mer n'est pas à la même altitude partout sur Terre.
Et donc ces structures, elles ont démarré quand en fait? Parce qu'il y a toute une chronologie, hein, c'est aussi l'objet du documentaire, c'est de voir, d'expliquer à la fois la végétation qu'on voit sur place, et puis la structure elle-même, sa composition, sa datation.
Ben, le film, il va à rebours. On commence par ce qu'il y a dessus, donc des choses contemporaines,
une
biodiversité d'aujourd'hui. C'est très important aussi ça, de ne pas oublier que, bien sûr, on va comprendre que c'est bâti sur des vestiges d'un événement extraordinaire passé, mais c'est une biodiversité d'aujourd'hui. On n'est pas en train d'essayer de conserver des vieilles amphores qui n'ont plus d'existence aujourd'hui.
Mmh.
C'est une biologie du présent à laquelle on s'intéresse. Simplement, elle a une histoire très ancienne. Donc, dans le film, on est allé décrescendo dans le passé. On a commencé par dater ces petites algues cailloux, s'apercevoir que des petites algues d'à peine 2 cm de diamètre, qui ressemblent à des cailloux d'ailleurs, avaient 8000 ans. 8000 ans de croissance pour atteindre à peine une taille de 2 cm. Vous imaginez la lenteur du phénomène. Et puis, en remontant comme ça dans le passé, on s'est aperçu que les noyaux, eux, avaient leur origine il y a 21 000 ans. Et ça, ça a été un choc parce que ça veut dire que...
Les noyaux, c'est quoi? C'est le centre de l'anneau. De la structure. Hein.
Le centre de l'anneau, c'est un noyau rocheux, une pierre de... 1-2 mètres de diamètre.
C'est le dôme dont vous parliez tout à l'heure.
Hein. Ah, le dôme, c'est l'ensemble.
Ah, c'est l'ensemble, d'accord.
Le dôme, c'est l'ensemble. Depuis la couronne sombre jusqu'au cœur, le noyau. Ça, c'est en forme de dôme. Et au milieu, le noyau, c'est encore une excroissance rocheuse, dure. Et ça, quand on a foré à l'intérieur, on est arrivé à cette date mythique de 21 000 ans. Ça voulait dire que ces anneaux avaient connu une forme particulière. En tout cas, ils n'étaient peut-être pas comme ça, mais... On démarrait il y a 21 000 ans, et il y a 21 000 ans, on sait que le niveau marin était très bas. Et donc, ces structures ont commencé à fleur d'eau, tout près de la surface.
Ce qui explique aussi leur étalement, finalement.
Oui, hein. Il fallait être sûr de trouver la profondeur exacte à laquelle ils ont démarré. Parce qu'encore une fois, cette profondeur d'il y a 21 000 ans, elle n'est pas la même partout sur Terre. Pour ça, il faut trouver d'autres indices. Donc on est allé chercher en périphérie de la vallée des Anneaux, les falaises sous-marines, qui à une autre époque ont été des falaises littorales, trouver des indices d'un littoral qui a érodé, marqué la plage pendant plusieurs milliers d'années. Et on a trouvé des alignements de grottes correspondant à ça.
D'ailleurs, vous avez eu quelques frayeurs hein, en allant plonger dans ces endroits-là, parce que vous étiez en particulier pendant la grosse période de tempête en 2022, c'est ça, si ma mémoire est bonne, en Corse. Oui. Et ça, vous, en plongée, vous l'avez ressenti ou pas?
Ah ben nous, quand
parce que vos copains sur les bateaux en surface, ils ont été obligés de rentrer au port. Hein. Mais vous, en profondeur...
Ah oui, ils nous ont attendus quand même. Hein.
Oui, mais bon, il y a un moment, il a fallu qu'ils...
Non. À plusieurs reprises, on a été rappelés d'urgence parce que nous, à 120 mètres, une tempête à la surface, c'est une lointaine rumeur. Hein. On ne se rend pas compte de ce qui se passe en surface quand on est à 120 mètres. Si la lumière change, le soleil peut être au zénith, briller de toute sa puissance. Quand la mer est agitée en surface, ça crée de l'ombre au fond. Donc le seul indice qu'on peut avoir, c'est ça. Mais donc oui, plusieurs fois, on a été rappelé, on devait vite rejoindre la tourelle, remonter en surface et interrompre la plongée. Ouais.
Donc il y a eu ce bathyscaphe, et puis on vous voit dans d'autres images avec Édouard Bard, justement, le paléoclimatologue, descendre dans une espèce de robot, on dirait une capsule.
Le bathyscaphe, par définition, c'est le sous-marin. Alors ça, c'est plutôt ce qu'on utilise à la fin avec Édouard Bard. J'avais fait la promesse à ces chercheurs de dire je trouverai un moyen de vous amener les voir. Vous ne pouvez pas faire la plongée à saturation profonde comme ça, mais on peut trouver d'autres moyens. Donc on a
alors le nom de votre grosse structure,
c'est la station Batiale. Système de plongée à
dans
saturation.
Dans laquelle vous restez 21 jours. Oui. Et puis il y a donc effectivement le bathyscaphe.
La dernière année.
Oui. Où vous descendez avec
Édouard
Bard. Oui. Et là vous êtes comme dans un petit vaisseau spatial.
Ouais, c'est ça. Et on se promène, parce que la zone est tellement vaste. C'est des dizaines et des dizaines de kilomètres carrés et c'est difficile en plongée avec ces petites palmes ou même avec un petit scooter sous-marin, enfin un petit propulseur. Voilà. Mais avec le sous-marin, on pouvait faire des distances plus grandes et on a comme ça longé ces falaises sous-marines pour trouver ces alignements de grottes. Quand on trouve des grottes toutes horizontales, toutes à la même profondeur, c'est un signe de la marque d'un ancien littoral.
On va écouter l'extrait justement de cette descente avec le paléoclimatologue Édouard Bard.
Non, bah, tu vois, pour moi, c'est émouvant. C'est le dernier axiome glaciaire. J'ai travaillé dessus pendant toute ma vie et là, je viens de voir. c'est la réalité. Ça montre la réalité du littoral il y a 21 000 ans. Et donc, c'est vraiment très impressionnant. Ce qui nous manquait dans notre étude, c'était effectivement d'aller échantillonner directement dans cette grotte pour pouvoir vérifier cette cote du niveau de la mer pendant le dernier maximum glaciaire.
Voilà, de l'émotion donc pour ce professeur honorable du Collège de France, qui d'un coup se retrouve avec vous, face à son sujet d'étude finalement.
Et comme il le dit lui-même, moi ça m'a bouleversé quand il a dit ça. 40 ans que j'étudie ce phénomène, c'est la première fois que je l'ai devant les yeux. Alors ça c'était... Et au-delà de que ça fasse plaisir, que ça soit émouvant, c'est une telle satisfaction. Parce que ce genre de grand projet, ça part de quoi? Ça part d'une curiosité un peu personnelle, même s'il y a tout de suite quelques camarades quand même dans l'affaire, pour une bizarrerie locale. Voilà.
Géologique.
Et, oui, ou biologique, on ne sait pas trop au départ. Et on peut nous accuser du tout ça pour ça, de tels moyens déployés. Bon, voilà. Et quand tout ça se transforme en une recherche collective sur des enjeux globaux que sont les changements du niveau des océans au cours du temps, qu'est-ce que ça rassure ? On se dit, on a eu une intuition, peut-être c'est un coup de chance, je ne sais pas, mais en tout cas, ça valait la peine. Alors ça, c'est très rassurant au cours de l'expédition. Donc, quand tout à coup, Edouard Barre vous adoube du sérieux de l'étude que l'on a lancée sur un pari, quoi, ça soulage.
Laurent Balesta, vous êtes notre invité cet après-midi dans la Terre au Carré. On peut voir les images justement de ces anneaux sous-marins corses en story sur le compte Instagram de la Terre au Carré. Si vous souhaitez évidemment visualiser le sujet dont on vous parle depuis 14h, et puis vous répondrez aux messages des auditrices auditeurs qui arrivent sur le site de l'émission.
Mathieu Vidard, la Terre au Carré.
Une protection sur ces anneaux est indispensable. La première chose que l'on va faire, on va proposer une interdiction donc d'ancrage des bateaux de commerce dans ces zones fabuleuses. Ce qui est important pour nous, c'est de proposer une réglementation qui va protéger au mieux ces anneaux. Il est indispensable pour tous les parcs naturels marins de pouvoir avoir les moyens de faire ces grandes expéditions, parce que c'est comme ça qu'on va dans le détail de la compréhension. Et quand on comprend mieux, bien sûr, on protège mieux.
S'appelle Madeleine Cansémi, directrice du parc naturel marin du Cap Corse. On pourra l'entendre dans ce documentaire autour du mystère des anneaux sous-marins. C'est à voir donc samedi sur Arte. Laurent Balesta, vous qui avez coécrit ce film, qui avez évidemment organisé l'expédition, qui avez plongé. Ça, c'est l'enjeu aujourd'hui, justement, la préservation. Pour ceux qui se poseraient des questions, encore une fois, sur l'intérêt de faire ce type d'expédition.
Oui, parce que à la limite... J'ai moins de fierté à avoir résolu le mystère des anneaux, enfin en tout cas d'y avoir contribué, avec beaucoup d'autres, que d'avoir nourri d'arguments biologiques, naturalistes, de listes d'espèces, de caractérisations, de biocénioses particulières, le parc, pour en faire autant d'arguments qui va les aider à renforcer la protection de ces zones. On connaît bien tous la polémique, les aires marines protégées, il y a un peu un abus de langage, c'est
oui,
des aires marines observées.
Vous avez Claire Nouvion qui est en régie, qui va venir dans ce studio dans un instant, elle peut nous rejoindre Claire si vous
voulez. Je partage ce sentiment, bien sûr, les AMP c'est des aires marines observées. Et même si le personnel à l'intérieur de ces aires marines protégées est dévoué à la cause, les réglementations sont limitées. Et c'est avec ce genre d'études-là que tout à coup on fournit les nôtres et puis d'autres, mais on fournit des arguments aux gestionnaires pour aller défendre avec plus d'arguments le fait de protéger de manière plus forte. Voilà. Et là, voilà, ma plus grande fierté, c'est que cette zone des anneaux va être interdite au mouillage des grands navires, va être interdite à la pêche professionnelle. Et on essaie même de limiter la vitesse du trafic maritime sur la zone, etc. Donc ça, c'est au final une bien plus grande fierté que l'énigme, que résoudre l'énigme des anneaux.
Sauf que Claire nous a... Bonjour Claire Nouvion, d'abord vous pouvez vous installer.
Bonjour.
Vous nous en avez suffisamment parlé autour des aires marines protégées, c'est qu'en réalité, elles ne sont pas protégées ces aires marines. Donc il faut quand même s'assurer que là aussi en Corse, cette protection, elle soit vraiment optimale.
Oui, moi je suis le premier à le dire, c'est les aires marines protégées, il y a encore une fois un abus de langage. Ça devrait s'appeler aires marines observées, gérées, surveillées, mais surveiller...
Exploiter même.
Et même exploiter, voilà. Mais voilà, ce qu'on peut espérer, c'est qu'à partir de là, à l'intérieur, on crée des zones de protection renforcées. Ce sera le cas sur les anneaux, ça c'est une petite victoire.
Claire Nouvian, vous les connaissiez, vous, ces anneaux sous-marins? Vous aviez vu des images ou pas?
Non, j'ai vu passer l'info que Laurent avait fait encore une découverte extraordinaire. Et j'avais...
C'est pas ma découverte.
C'est celle de votre équipe, en tout cas.
Et même des professeurs de Corté avant nous. On est les premiers à plonger dessus. Voilà.
Ouais. Vous avez beaucoup plongé, d'ailleurs, Claire Nouvion.
Il fut un temps, longtemps, quand
j'étais
jeune.
Avec Balesta ou pas?
Mais moi, je suis un guignol. Moi, je patauge à la surface.
Donc maintenant, l'enjeu, c'est ça. C'est pouvoir, justement, assurer une protection de cette aire marine.
Oui, c'est la volonté du parc, en tout cas, et même du président du territoire corse et du préfet maritime de Méditerranée. Il semble que là, ils aient... voilà, il y a et même de la des pêcheurs professionnels qui sont d'accord pour cette zone au large de la protéger et d'y interdire la pêche professionnelle.
Laurent Balesta, c'est quand même assez dingue de découvrir on peut presque dire un nouveau monde aussi près de chez soi quand même, parce que là on le disait, on est à 20 km des côtes du Cap Corse.
Je ne sais pas si c'est dingue, parce que c'est le constat de la réalité de nos connaissances. Hein. Mais c'est tellement plus excitant que de découvrir une vallée perdue en Papouasie. En tout cas, à mes yeux, il y a quelque chose de plus malicieux. Enfin, voilà, on n'est pas allé au bout du monde, c'est juste là. Et ces alignements, ces forêts de gorgones fouées, je ne les avais jamais vues. Ces champs de gorgones peignes non plus.
C'est quoi les gorgones d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas? Parce qu'on a l'impression que c'est un végétal. Hein.
Oui, non, c'est des colonies animales, un mais peu comme des coraux. Ouais. Voilà, ouais, avec des colonies.
C'est comme des grandes branches, hein, ça ressemble à des grandes branches.
C'est buissonnant, c'est arborescent, mais c'est animal. Ça, ouais. Ça...
Est-ce qu'on peut parler d'une spécificité géologique sous-marine du Cap Corse ou pas?
Oui. Ouais. Oui, parce que c'est, encore une fois, c'est Édouard Barre qui a eu l'intuition de ça. Le Cap Corse, il est caractérisé dans sa partie terrestre par une roche très particulière qui est la serpentinite. Et c'est une roche un peu verte et surtout magnétique. Elle est très facile à détecter. Quand on étudie le champ magnétique terrestre, là où il y a de la serpentinite, il se déforme. Et on sait que dans sa genèse, qui se passe toujours très profondément dans la croûte océanique, c'est un cas particulier qu'il y ait de la serpentinite hors de la croûte océanique propulsée en altitude dans les hauteurs du Cap Corse. Normalement, c'est dans la croûte océanique. Et c'est là qu'elle se forme. Quand elle se forme, elle produit de l'hydrogène. Cet hydrogène se transforme en général en méthane au contact de l'eau de mer. Et donc, ça fait des sources de méthane ou des poches de gaz cloîtrées, enfermées dans le sédiment. Et le fait qu'il y en ait sur le Cap Corse, Édouard Barre s'est dit, mais est-ce que ça pourrait pas être ça? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu des sources de méthane potentielles à une autre époque, dont on n'a pas trouvé les traces, mais qui expliqueraient l'origine de chacun de ces anneaux comme autant de petites cheminées vieilles d'avant, en tout cas, la dernière ère glaciaire? Et une façon de le découvrir, c'était d'étudier le champ magnétique au-dessus des anneaux. Ça n'avait pas été fait. Et là, miracle, tous les instruments ont fonctionné. Quand on est passé au-dessus des anneaux, déformation du champ magnétique, donc de la serpentinite en dessous, et donc des potentielles sources de gaz à une époque lointaine sans doute, mais potentielle.
Donc ça fait partie de cette enquête que vous avez menée autour de ces anneaux sous-marins du Cap Corse. Il paraît que vous avez emmené Thomas Pesquet aussi avec vous ?
Ça a commencé d'abord par un duplex. Il nous a fait l'honneur de rentrer en communication avec nous quand nous étions dans la station spatiale, à moins 120 mètres, et lui était dans la station spatiale, c'était en 2021, donc à 400 km d'altitude. Et on a créé cette connexion. Et c'était magique, hein. Enfin, c'était un faire-valoir extraordinaire pour nous.
Donc l'espace qui parlait au monde sous-marin.
Voilà, on s'y croyait complet, hein. Voilà, franchement. Et en plus, c'est lui qui posait des questions. En général, quand il parle avec la Terre, tu te dis, alors comment tu fais pipi, comment tu dors, comment tu machin. Bon. Et là, c'était lui. Mais comment vous faites ça? Comment vous faites ça? On était tellement flattés de ça. Et ça m'a permis de
Donc vous l'avez remarqué ensuite?
Et j'y ai fait une promesse que je ne savais pas pouvoir tenir, d'ailleurs. Je veux dire, je trouverai un moyen de t'amener voir ces anneaux. Parce qu'il ne pratique pas la plongée profonde comme ça. Quoique, à mon avis, en 5 jours, lui, c'est réglé, il sait le faire, et après, il t'explique même. Mais la dernière année, on a eu la possibilité d'avoir des sous-marins. Et du coup, j'ai dit, voilà, je peux tenir ma promesse. Donc, j'ai amené Thomas, 3 ans plus tard, voir les anneaux de ses propres yeux avec un petit sous-marin.
Et ça s'est bien passé?
Et ça s'est très mal passé. On a eu un incident avec le sous-marin. En plus, c'était 3 mois après l'accident dramatique sur le Titanic. Donc, c'était un peu stressant. Ouais, on a une caméra qu'on avait conçue pour l'occasion, qui a implosé à l'avant du sous-marin. En implosant, ça a fait une coupure électrique dans le sous-marin. Il a fallu remonter en urgence. En arrivant en surface, du coup, on est arrivé beaucoup trop tôt en surface. Il y avait une tempête, parce qu'au Cap Corse, il y a tout le temps des tempêtes. Du coup, la récupération en surface du sous-marin a été compliquée. La grue qui l'a attrapé on s'est écrasé sur le pont du bateau arrière. On a cassé le sous-marin, une bouteille d'air qui a explosé.
Donc, c'est quand même ballot, parce que le gars qui est allé 2 fois sans problème dans l'espace, il suffit d'aller avec vous à 100 mètres de profondeur pour complètement exploser.
Mais il a eu des pépins dans l'espace aussi. Hein. Oui. Il a réparé la combinaison. C'est peut-être lui le chat noir. Faudrait étudier la question plus sérieusement.
Alors des questions, on en a, on va essayer d'y aller, mais très rapidement. C'est quoi ces anneaux à la fin, demande Anne. Tiens, s'il faut conclure cette émission, Laurent Balesta, qu'est-ce qu'on peut dire comme ça en résumé? Parce qu'il y en a un très bon d'ailleurs dans le documentaire, à la fin, en 3 minutes, on a tout compris. Mais s'il faut le résumer comme ça en une phrase, c'est quoi ces anneaux sous-marins du Cap Corse?
Un héritage topographique d'un événement unique. Ces sources de gaz d'une autre époque, qu'on n'a pas pu dater d'ailleurs, mais qui ont laissé des traces suffisamment pérennes pour que la vie s'y installe dessus. C'est ça qui est paradoxal. Des événements géologiques qui ne durent pas, et puis la vie mortelle, par définition, qui elle va durer et se perpétuer en gardant la forme ancestrale. Voilà.
Et Philippe demande, est-ce que c'est bien nécessaire de plonger? Pourquoi ne pas plutôt envoyer des robots comme pour l'exploration spatiale d'ailleurs?
Mais je refuse de répondre à ces questions-là.
Vous sortez votre joker.
Mais d'abord pour la délicatesse de certaines manips. Par exemple, le carottage qu'on a fait, c'est impossible de le faire à un robot. C'est impossible. Ça demande trop de précision.
Les carottes de sédiments,
oui,
là, c'est ça.
Ouais. Et de roches, voilà. Et puis là, pour aller faire l'inventaire de la biodiversité qu'il y a au fond, de choses toutes petites, c'est pareil, voilà. Et puis le panache. Ça devient des patrimoines quand je crois, hein. En tout cas ça m'arrange, ça devient des patrimoines communs quand quelques privilégiés que nous sommes ont pu s'y balader.
Laurent Balesta, merci beaucoup. Samedi soir, donc, Cap Corse, le mystère des anneaux, ce film de Yann Rino. Il y a aussi une exposition à partir du 14 juin au musée des Confluences à Lyon avec vos photos, c'est jusqu'en avril 2026. Merci à Anna Massardier qui a préparé ce dossier. Et vous restez avec nous pour écouter la chronique de Claire Nouvian.
Ça marche.